Vous écoutez France Culture.
Il est 7h15, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Ali Badou.
Et aujourd'hui, les principales évolutions de la société taïwanaise.
Voilà, de très nombreuses émissions consacrées sous forme de reportage l'année dernière à Taïwan. On peut renvoyer à l'ensemble de la bibliographie et des liens internet. Donc, c'est en place au 12 juin dernier. Et puis aujourd'hui, donc, notre invité Barthélémy Courmont, directeur du bureau à l'IRIS, de l'IRIS à Taipei, qui est l'auteur également des Taïwan de l'autre côté du Détroit, une île en quête d'identité avec un S donc à la fin, et c'est aux éditions du Félin, c'est paru l'année dernière.
On écoute.
Barthélémy Courmont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous dirigez à Taïwan le bureau de l'IRIS depuis 2 ans et demi. On a consacré de nombreuses émissions à Taïwan avec beaucoup de profit cet été. Donc, c'était sous forme de reportage. Et puis, dans les enjeux internationaux, on peut renvoyer un certain nombre d'émissions diffusées en juin, en juillet, qu'on peut toujours réécouter. Alors, c'est très intéressant parce que lorsqu'on est en reportage, effectivement, on n'a jamais le temps d'enregistrer un certain nombre d'entretiens sur l'évolution des sociétés, les évolutions sociétale, sociologique, et évidemment se focalise sur la politique étrangère, sur la relation avec les voisins ou sur l'économie, bien sûr. Alors, le contexte est très intéressant pour la société taïwanaise, d'abord parce qu'à l'origine, évidemment, c'est une sorte de métissage entre deux sociétés, la société donc originelle donc d'avant 49 et puis la société arrivée entre 46 et 49 en gros, mais en provenance évidemment, si j'ose dire, de la guerre civile continentale. Alors, donc déjà il y a deux sociétés qui se marient plus ou moins bien. En plus, sur le plan politique, il y a eu deux alternances maintenant consommées, celle de 2000 pardon, puis celle de 2008. D'autre part, il y a un rapprochement avec Pékin, ce qui soulève la question donc de la relation entre les deux rives et peut-être aussi de la relation des Taïwanais avec le reste de la communauté chinoise en dehors même du continent, c'est-à-dire par exemple en Asie du Sud-Est ou bien sûr à Hong Kong, qui est un cas particulier. Puis il y a peut-être autre chose dont on pourra parler, c'est la crise financière. Comment est-ce qu'elle est appréhendée, vécue, appréciée, évaluée à Taïwan? Alors, qu'est-ce qui vous frappe dans les évolutions sociétales à Taïwan depuis peut-être 10, 15, 20 ans? C'est à vous de choisir.
Ce que l'on a pu constater au cours des dernières années à Taïwan, c'est un immense débat de société sur la question de l'identité. Le parti pro-indépendantiste, démocratique progressiste, est arrivé au pouvoir en 2000 avec un message pro-indépendantiste, à certains égards anti-chinois, cherchant à se démarquer de manière officielle et définitive de l'encombrant partenaire du côté du continent. Et effectivement, cela a été quelque part le résultat de ces immenses débats sur la question qui sont les Taïwanais, d'où viennent-ils véritablement et quelle est leur relation avec le continent. Alors vous avez mentionné ces vagues successives d'immigration en provenance de Chine continentale. On peut y ajouter aussi des identités aborigènes qui sont proprement taïwanaises.
Il y a un petit musée d'ailleurs là-dessus à Taïwan concernant les aborigènes.
Il y en a même plusieurs.
Les autochtones.
Il y en a même plusieurs. Il y en a un qui est assez connu effectivement à Taipei. Il y en a d'autres dans le reste du pays, en particulier dans les régions qui sont fortement peuplées d'aborigènes, je pense à la côte pacifique. Et effectivement, ces identités ont été mises en avant par les mouvements pro-indépendantistes pour établir une distinction qui ne soit pas uniquement démocratique, politique et économique avec la Chine continentale, mais qui soit quasiment d'ordre ethnique. Donc il y a eu ces intenses débats. On arrive 8 ans plus tard, avec cette élection que vous avez mentionnée au début de l'année, qui a vu le retour du Kuomintang, du parti historique de Chiang Kai-shek au pouvoir, avec un message beaucoup plus apaisé sur la relation avec la Chine continentale, voire même une tentation de rapprochement, dialogue renforcé.
Avec des accords qui se multiplient depuis la prise de pouvoir du président Ma, donc c'était en mars dernier, à la suite des législatives de janvier. Donc on voit qu'il y a une sorte de linéarité dans le rapprochement entre Taipei et Pékin.
Absolument. Il faut savoir que depuis maintenant 3-4 ans, le Kuomintang, qui avait perdu pour la première fois les élections en 2000, a réorienté son message politique en direction d'un apaisement des relations avec la Chine. sachant que c'est le rival historique, bien évidemment, du Kuomintang au départ. Il y a eu de nombreuses initiatives de la part du président du parti, Lien Chan, qui s'est rendu en Chine à plusieurs reprises, qui a rencontré ses interlocuteurs chinois, y compris Hu Jintao. Et effectivement, quand...
Oui, qui est chef de parti lui-même et président de la République.
Absolument. Alors, quand ils se rencontrent, c'est bonjour monsieur. On évite les titres qui peuvent être mal perçus de part et d'autre, bien sûr. Mais les rencontres étaient extrêmement cordiales. Quand Ma Ying-jeou est arrivé au pouvoir, il a été élu en mars dernier à une large majorité. Et puis, il a pris ses fonctions au mois de mai. Et très rapidement, il a mis en œuvre son programme politique qui était effectivement orienté autour d'un rapprochement économique, dans un premier temps, avec la Chine continentale. Donc il y a eu un certain nombre d'accords. Les choses vont extrêmement vite, puisqu'il y a maintenant des lignes directes entre les deux rives, ce qui est une énorme nouveauté. Il y a des liaisons, des lignes aériennes. Il y a des liaisons par cargo qui sont directes également entre les deux rives. Il y a la possibilité pour des touristes chinois de se rendre à Taïwan, donc des accès au visa qui n'étaient pas aussi facilités auparavant. Bref, en 3-4 mois, on a vu d'abord des rencontres de très haut rang se tenir de part et d'autre du détroit, et puis aussi et surtout des accords qui sont qualifiés d'historiques à la fois par Pékin et par Taipei. Donc les choses vont effectivement très vite. Et on sent que ces accords, s'ils, bien sûr, sont rejetés par une partie de la population taïwanaise, Taïwan est une démocratie et l'opposition exprime de manière très démocratique son opposition à ces projets qu'ils estiment dangereux pour la société taïwanaise. Malgré tout, la majorité des Taïwanais y sont favorables, estimant que c'est peut-être la meilleure garantie de faire face aux enjeux contemporains auxquels doit faire face Taipei. En marge de ce rapprochement économique et à certains égards humain entre les deux rives...
Qui est considérable depuis
des années. Qui est tout à fait considérable, voire effectivement historique. On n'a pas vu ça depuis la séparation des deux entités en 1949. Malgré tout, la question soit de l'indépendance, soit de la réunification reste totalement taboue. Il sera hors de question, à l'occasion de la présidence de Ma Ying-jeou, de tenir le moindre propos, voire engagement sur cette question. Donc effectivement, on reste sur une convergence d'intérêts entre Pékin et Taipei sur la nécessité d'officialiser d'une certaine manière une interopérabilité en matière économique, une interdépendance même économique qui se constate depuis maintenant plusieurs années, avec d'énormes capitaux taïwanais investis en Chine et puis avec une Chine qui pèse de plus en plus lourd sur la scène internationale et qui donc intéresse de plus en plus également Taïwan. Donc on retrouve une convergence d'intérêts qui profite aux deux parties, mais évidemment il est hors de question à ce stade de chercher à aller trop loin.
Est-ce qu'il faut relier justement ce rapprochement entre les deux Chines, si j'ose dire, ou entre Pékin et Taipei, à la perception qu'ont les Taïwanais justement de la crise financière mondiale et qui est en train de devenir une crise économique dans beaucoup de régions du monde?
Je crois que c'est effectivement essentiel. Quand Ma Ying-jeou a été élu, son programme était essentiellement économique, un programme de relance de l'économie taïwanaise. Taïwan avait en début de l'année un taux de croissance aux alentours de 4%, ce qui est un chiffre plutôt négatif pour une entité comme Taïwan. Et effectivement, les promesses de Ma Ying-jeou étaient d'entretenir de meilleures relations avec Pékin pour profiter de la croissance chinoise et s'attacher les services de l'immense marché chinois qui potentiellement pourrait s'ouvrir aux produits taïwanais. Donc il y a effectivement cette espérance du côté des autorités que l'on retrouve également au sein de la société taïwanaise. Et avec la crise à laquelle nous assistons, avec les souhaits de Pékin de développer son marché intérieur, évidemment, ce rapprochement est encore plus souhaitable pour la majorité des Taïwanais qui estiment que c'est peut-être leur seule chance de sortir tant soit peu indemne de cette crise financière internationale.
Oui, c'est une interdépendance finalement pour le meilleur et pour le pire, mais même quand c'est le pire, au cas où la crise financière toucherait de plein fouet la Chine et Taïwan, c'est un pire qui peut être surmonté par des intérêts croisés renforcés.
Absolument, sachant que on constate déjà dans la région que d'autres acteurs de premier rang, en particulier le Japon, sont beaucoup plus exposés actuellement à la crise économique internationale que Taïwan. Et la raison qui est invoquée par certains économistes taïwanais, c'est justement la proximité dont bénéficient Taïwan vis-à-vis de la Chine. Et on estime par conséquent qu'avec un marché de plus d'un milliard d'habitants du côté du continent...
Contre 23 à peu près.
Contre 23 millions du côté taïwanais, effectivement. Et puis surtout des différences assez fondamentales dans les productions de part et d'autre du Détroit. Taïwan s'est depuis quelques années spécialisé dans la haute technologie. Et donc, il n'y a pas de concurrence directe actuellement, en tout cas, avec la Chine continentale.
Barthélémy Courmont, donc, qui est directeur du bureau de l'IRIS à Taipei, franceculture.com, pour les liens, les références de son ouvrage. Et puis demain, nous parlerons de l'euro, les conséquences sur l'euro de la crise financière et économique mondiale. L'invité d'Éric Laurent sera Gérard Lafay, qui est économiste.
À demain, Thierry Garcin. À demain.